BFM Business présente Tech & Co Business, le magazine de l'accélération digitale. Frédéric Simotel.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Tech & Co Business sur BFM Business. Nous sommes ensemble pendant une heure. Vous pouvez bien entendu nous retrouver en replay, en podcast. Et on va parler aujourd'hui justement de vraiment ce sentiment. Comment les entreprises intègrent l'intelligence artificielle? Quels sont les moteurs qui les poussent à y aller, les élans donnés? Mais aussi, on va s'intéresser à ce qui ne marche pas. C'est avec le groupe de travail Integraï qui rassemble une vingtaine d'entreprises du CAC 40 qui s'interrogent justement, mais qui vont beaucoup plus loin, hein, qui essaient vraiment d'avancer sur ces sujets d'intégration de l'IA au sein de leur processus. Ensuite, on enchaînera avec notre baromètre optimiste pour savoir quelles sont les spécialités les plus demandées aujourd'hui par les entreprises. Et on voit qu'il y a un fort besoin des entreprises. Et on reviendra, parce que la société Greenly sera là avec nous, pour voir les émissions carbone aussi, comment les mesurer avec cette IA qui arrive. Voilà, un sujet assez passionnant. Dernière partie d'émission, nous serons avec nos experts cyber. On va faire un grand chapitre, ce sera même le seul de cette émission, sur Mythos, la Claude Mythos, cette nouvelle IA sortie par Anthropic, qui inquiète tout le monde de la cyber. Allez, restez avec nous. On est ensemble pendant une heure sur BFM Business.
Tech & Co Business, décryptage.
Allez, on commence avec nos invités. Je vous les présente tout de suite. On s'était vu il y a quelques mois déjà pour parler de ce baromètre Integraï. On va en reparler dans un instant. Hugues Lemaire, conseiller stratégique chez Spininvest. Bonjour.
Bonjour Frédéric.
Hugues et Sylvain Duranton, que l'on connaît bien ici, donc Global Leader chez BCGX. Hein. Bonjour Sylvain.
Bonjour
c'est
Frédéric.
C'est l'entité intelligence artificielle, notamment du BCG, ce laboratoire de recherche, mais qui suit les entreprises. Et donc tous les deux fondateurs, cofondateurs d'Integraï, qui est un... Alors, on en plaisantait juste avant... La prise d'antenne, pour tout vous dire, on dit que c'est pas un think tank, c'est pas un do tank, c'est un work tank. Voilà, ce sont des sessions de travail avec, c'est ça, il y a une trentaine de sociétés du CAC 40 qui participent à ce comité de réflexion. C'est ça?
Integraï réunit 30 sociétés au global, 50% des entreprises du CAC 40, il y en a 20 qui appartiennent au CAC 40 sur les 30, mais en termes de chiffre d'affaires et de capitalisation boursière, on est plus proche de 65-70%. Mm-hmm. Donc on couvre quand même quasiment...
Donc un chiffre d'affaires, on va avoir de plus de 1000 milliards...
1000 milliards de chiffre d'affaires et 1400 milliards de capitalisation boursière globale.
Et je regardais ce qu'on s'était dit la dernière fois, parce qu'on s'était déjà vu la première version de ce baromètre, c'est leur budget IT, c'est entre 30 milliards et 60 milliards dépensés en IT par ces sociétés chaque année.
C'est donc ça, c'est, tout à fait.
Ça pèse quand même un petit peu. Le but de ce baromètre, c'est comment est faite l'IA chez moi, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas.
Voilà, c'est pour ça, c'est vraiment un work tank, effectivement. Ce n'est pas des réunions tank pour penser, c'est des réunions de ceux qui font. On n'a quasiment que des membres de COMEX autour de la table. Mais c'est essentiellement quand même, Frédéric, pour parler de ce qui marche moins bien. Parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir élaborer ensemble des solutions, comme ça qu'on va pouvoir y réfléchir et échanger. C'est ça l'intérêt d'Integraï, ce qui nécessite beaucoup de confidentialité.
Alors, justement, il y a plusieurs points. Il y a la partie satisfaction des entreprises, partie intégration, on va voir où est-ce qu'ils en sont. Le coût, rapport qualité-prix, parce qu'évidemment, bien aujourd'hui, c'est bien beau d'utiliser l'IA, mais il y a un moment, il faut quand même passer à la caisse, parce qu'il faut nourrir aussi ceux qui fabrique tous ces modèles, tous ces moteurs. Et puis, on verra un peu les questions un peu plus d'ordre stratégique, comment les entreprises réfléchissent à l'intégration de cette IA et les questionnements qu'ils peuvent avoir sur notamment le financement. La satisfaction des entreprises de leur déploiement de l'IA, c'était la même chose il y a 6 mois, c'est-à-dire... on utilise, mais on n'est pas complètement... On n'est pas subjugué, il n'y a pas l'effet encore ChatGPT. Écoute, on a pu avoir dans le grand public quand on a vu arriver cet outil.
Mais c'est vachement intéressant parce que on a réuni la dernière fois le groupe Integraï en janvier. On se réunit tous les 6 mois et merci Frédéric de nous convier à chaque fois pour en rendre compte. J'ai refait un petit tour moi pour préparer notre rencontre aujourd'hui et entre janvier et avril, la situation a beaucoup évolué. D'ailleurs, on se disait aussi ça en antenne avant de commencer l'émission. Il faut faire attention quand on parle d'IA parce que tout ce qu'on dit aujourd'hui risque d'être faux demain. Mais qu'est-ce qui a changé ? En janvier, on avait vraiment une certaine forme d'effet de sidération. Mm-hmm. Voilà, maintenant l'IA, c'est à l'échelle, c'est plus l'époque, c'est dans l'entreprise, c'est les agents dont on commence à parler maintenant beaucoup. Et les agents, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu n'adaptes plus des processus IA que tu essaies d'intégrer dans des organisations humaines, c'est que tu as une organisation IA dans laquelle il faut que tu intègres des hommes. Donc c'est quand même très différent ce qui concerne les agents. Il faut pas que tu regardes maintenant, que tu cleanes ta data, me dit-on, il faut que tu cleanes ton organisation maintenant pour y intégrer des agents. Bon, janvier, pour résumer, une certaine forme de sidération. Avril, j'ai refait tout un tour, beaucoup de maturité, une certaine maîtrise du timing, beaucoup d'attention à la mise en place de ces processus. Il n'y a personne qui va se précipiter. Attention, je ne minimise pas le phénomène, hein, notamment des agents. Mais les entreprises et nos interlocuteurs d'Integraï ne sont pas prêts à faire n'importe quoi, n'importe comment, en n'importe quel temps.
Ce qui n'est pas plus mal, Sylvain, enfin voilà... ce qui est un peu paradoxal, parce qu'on a l'impression aussi qu'il faut accélérer à grande vitesse, hein, avec ce que j'appelle toujours, c'est comme ça, c'est une innovation galopante, hein, on le disait, là encore, on disait beaucoup de choses avant de prendre le micro, on disait oui, un jour c'est OpenAI, le lendemain on parle de Claude, et puis le lendemain on parle d'OpenCloud, et ensuite il y a une nouvelle version qui arrive, et Google qui rajoute, enfin tous les jours il y a des news.
Oui, alors il se passe des choses tous les jours, bien sûr, et du coup, je pense que c'est ce que dit Hugues, on est entré en phase de sérénité. En janvier, la sidération, c'était oui, on est très content de là où on est, et là-dessus, on avait une grande augmentation dans l'échantillon, on avait en gros 27% il y a 6 mois qui nous disaient on est très content de ce qu'on fait, et on est passé à 42%, mais la sidération, c'est qu'on était passé de, quand je me compare aux autres, est-ce que je suis très content, et là, je suis passé de 48% à 21%, donc une chute énorme.
Donc des entreprises plus inquiètes, c'est ça?
Plus inquiètes, avec tout ce qu'elles entendaient, les grosses annonces faites ici ou là par certaines entreprises. Et là, maintenant, on est beaucoup plus dans un moment de sérénité où, effectivement, les choses bougent très vite. Je pense que les entreprises ont intégré ce nouveau contexte. Elles ont compris que, de toute façon, oui, une partie de ce qu'on code aujourd'hui sera obsolète demain. Oui, on peut avoir choisi un fournisseur aujourd'hui et puis demain, on pourra passer à un autre. C'est plus une raison pour ne pas y aller. Et pour moi, le plus important, c'est que... Aujourd'hui, il y a, pour beaucoup d'entreprises au niveau mondial, mais en France, on voit complètement le mouvement, c'est devenu un sujet de direction générale et de CEO. On a 74% des CEO sur Terre qui disent « l'IA, c'est moi, je veux que ça avance ». On a les entreprises qui, en gros, en moyenne, doublent leur investissement IA 2026 par rapport à 2025. Et donc, on est sorti d'une phase d'inquiétude, on ne savait pas trop où on allait, on fait beaucoup de choses partout, à quelque chose de beaucoup plus structuré, beaucoup plus serein. Et tu parlais de la vitesse. En France en particulier, mais en Europe plus généralement, on est sur des rythmes qui sont peut-être plus lents, parce qu'on veut adapter les organisations.
Après, je parle de la vitesse au niveau amont, c'est OpenAI, Google Gemini. Après, dans l'entreprise, et j'ai l'impression que c'est la même chose aux États-Unis, peut-être moins en Chine, mais aux États-Unis, que tout le monde avance avec prudence.
À son rythme, en fonction aussi de ses enjeux sociaux, de son paysage technique qui peut être plus ou moins difficile à aborder. Mais je dirais qu'on est passé en quelques mois d'une situation où tout le monde se disait « il faut que j'avance, je ne sais pas ce que je dois faire, au secours », à quelque chose qui est aujourd'hui beaucoup plus maîtrisé, structuré, piloté dans les comités de direction.
Dans les groupes de travail d'Integraï, les freins sont clairement identifiés?
Je pense qu'il y a plusieurs types de freins. Il y a un frein qui est au niveau de l'évolution de la technologie, qui est une vraie difficulté, avec aussi des enjeux de souveraineté. Alors, on a beaucoup testé la partie souveraineté. Elle ressort moins fort, d'ailleurs, que la partie résilience. Aujourd'hui, le sujet, c'est d'avoir quelque chose qui tourne et qui soit résilient. Alors, résilient pour des questions de souveraineté, mais résilient plus généralement. Donc, il y a des gros enjeux autour de la technologie. Il y a des gros enjeux autour du social, en particulier avec les agents qui commencent à faire peur, puisque c'est ce que disait Hugues. À un moment donné, c'est des agents qui peuvent automatiser sur certaines fonctions assez fortement. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi au niveau social?
C'est une étude d'ailleurs qui a été sortie récemment, c'était la COFAS qui avait fait ça avec l'Observatoire de l'avenir des métiers. Et en gros, ils avaient pris une trentaine de métiers et puis ils avaient dit, sur chacun de ces métiers, on définit le nombre de tâches que chacun fait un peu au quotidien. Et à partir du moment où 30-40% de ces tâches peuvent être automatisées, là, le métier, il est en danger. Et donc, ils avaient identifié, je crois que c'est 5 millions de postes en France qui étaient potentiellement en danger.
Alors tout à fait, il y a une série d'études qui ont mesuré l'automatisabilité de certains métiers. Et effectivement, on voit qu'il y a des métiers qui vont être sous pression, proches de l'automatisation complète ou assez fortement automatisés. Il y a une dimension qu'on oublie beaucoup dans ces études en général, c'est que si j'automatise un métier, je deviens beaucoup plus productif. Donc le coût de faire quelque chose baisse fortement. Et du coup, s'il y a une demande latente non servie, la demande peut augmenter. Et ça, on le voit dans certaines fonctions. Par exemple, la fonction codage informatique, où il y a toujours des attentes de 5 ans, 10 ans avant que les choses se fassent.
Là, on fait les
10 ans pour, enfin, j'exagère, 3 ans pour déployer un ERP. Aujourd'hui, bien qu'il y ait une très forte automatisation, on continue à avoir une croissance du nombre de codeurs parce qu'il y a une demande latente non servie. Mm-hmm. Dans d'autres fonctions, par exemple, dans les centres d'appel, quand on automatise certains types d'appels, là, on crée une pression sur l'emploi.
Sylvain parlait de souveraineté. Il y a une question aussi dans la partie intégration, savoir si ces entreprises du CAC 40 sont prêtes à accorder plus de place à des acteurs français, européens. Là, qu'est-ce qui remonte de ces groupes de travail ?
Moi, j'ai un sentiment assez positif, c'est que ces entreprises du CAC 40, si je dois résumer, je ne me fais que le porte-parole de ce qui se dit dans le groupe, elles sont prêtes. Elles sont prêtes, elles sont dans la bataille, elles sont concentrées, elles sont parfaitement au fait de ce qui se passe. On parlait de la vitesse, il ne faudrait pas confondre deux choses quand même, parce qu'on parle des sociétés beaucoup IA natives, c'est ce qui fait les frontlines dans les nouvelles, donc on parle de certaines sociétés qui atteignent 100 millions de chiffres d'affaires en quelques mois. Beaucoup de monde du CAC 40, il leur a fallu des années, des dizaines d'années. Pour le reste, quand on parle des entreprises qui ne sont pas IA natives, il faut intégrer cette IA et je dirais globalement encore une fois qu'elles y sont préparées et que le processus est enclenché et maîtrisé. Mmh. Maintenant, deux remarques supplémentaires. Il y a deux choses qui ressortent de nos échanges. C'est, d'une part, avant toute chose, le pragmatisme. Make or buy, comme on dit, j'apprends plein d'expressions en plus en faisant Intégrali, donc make or buy, il n'y a pas de règles. Français, européen, américain, chinois, il n'y a pas de règles. Il faut que ça fonctionne. Si tant est, et là également, et c'est là où il y a un degré de maturité qui est vachement intéressant, que l'intégrité de la donnée soit assurée.
Oui, c'est ça.
Mais une fois que cette règle est respectée, tu dois faire avec beaucoup de pragmatisme. Deuxième remarque, Sylvain en parlait, je pense que deux tiers, et c'est vachement intéressant, deux tiers, à mon avis, du temps d'échange dans Intégrali porte sur le facteur humain et social. Donc tu vois, c'est intéressant, on se dit il y a de l'IA partout, il n'y a que l'IA, tout est que IA, etc. Non. Deux tiers du temps, et je pense que c'est peut-être 50%, parlent des organisations et du facteur humain et social.
Oui, c'est ce qui rejaillit d'ailleurs en général sur les projets. On dit que c'est un tiers ou un quart technique et tout le reste, c'est de l'organisationnel de l'humain. Sur le coût, le rapport qualité-prix, là, c'est ce qui ressort de cette étude, c'est la qualité est encore à améliorer, elle n'est pas encore suffisamment satisfaisante.
Alors oui, la satisfaction vis-à-vis des solutions proposées, elle est que de 26%, donc on n'est pas encore à un niveau qui est extrêmement élevé. Ceci dit, oui, les solutions ne sont pas parfaites aujourd'hui. Pour moi, ce qui me frappe le plus, c'est que malgré tout, les entreprises veulent continuer à investir et à investir plus. Et un chiffre très intéressant dans l'étude, c'est que dans les participants, on en a 48% maintenant qui nous disent « En fait, sur les sujets IA, j'arrive à débloquer de la marge de manœuvre financière beaucoup plus qu'avant. » C'était que 24% ce chiffre la dernière fois. Donc, on sent quand même qu'on va mettre plus d'énergie. Et on a même, nous, dans notre échantillon CEO mondial, on en a 94% qui nous disent « je veux investir plus ». Et sur ces 14%, 27% qui nous disent « si ça ne rapporte pas tout de suite, ça ne fait rien, je vais continuer, voire augmenter parce que je veux vraiment voir le résultat ». Et à une époque, les entreprises étaient très stressées en se disant je veux absolument dépenser au juste besoin. Tu disais tout à l'heure, faut quand même faire attention à la caisse.
Oui,
il faut faire attention à la caisse. Donc, je veux choisir la bonne technologie, etc. Je pense que l'état d'esprit aujourd'hui, c'est plus que les technologies évoluent. Attendre pour investir que les technologies soient stabilisées, c'est un leurre, ça n'arrivera jamais. On sait qu'une partie de ce qu'on fait deviendra obsolète dans 2 ou 3 ans. Mais comme tu le disais, le plus difficile, c'est de faire évoluer les organisations. Et ça, c'est fait pour de bon, quitte à ce qu'il fasse changer les outils dans quelques temps. Il faut coder de façon modulaire, donc les architectures sont très importantes, pour anticiper le fait qu'on changera probablement d'outils. Et ça, c'est une façon différente de faire. Et c'est ça, la résilience aujourd'hui dans un monde où la technologie change très très vite.
C'était un quart avant et c'est la moitié aujourd'hui des entreprises qui ont des latitudes sur les dépenses IA. Bon, il y a aussi que ça coûte, les tokens coûtent un peu moins cher. Enfin, il y a quelques facteurs aussi qui font qu'on peut avancer dans ces dépenses. Mais enfin, on a quand même quelques questions.
Sur le prix des tokens, c'est intéressant parce que les tokens coûtent moins cher. Et il y a un débat dans les entreprises qui est de se dire, mais finalement, les tokens, je régente, je ferme ou j'ouvre les vannes. Il y a toujours cette tension sur ce sujet. Et dans les fonctions où il est critique d'utiliser l'IA aujourd'hui dans les entreprises, moi, mon conseil, c'est d'ouvrir les vannes au moins pour quelques temps.
Oui.
Quitte après, une fois qu'on maîtrise les systèmes, qu'on sait beaucoup mieux les utiliser, de réduire. Mais essayer de réduire trop tôt le coût, on va brider les usages, on va brider l'apprentissage des équipes, et je pense que ça peut être délétère à un moment.
Bon, on l'a vu, Jensen Huang, hein, qui met même ça, il met même des tokens dans la rémunération de ses développeurs. Il met, voilà, je vous paye, vous avez des primes, mais vous aurez aussi des primes en tokens.
Aujourd'hui, une équipe de développement moderne, on considère qu'un codeur qui brûle moins de 1 million de tokens par jour, il est impossible qu'il soit productif.
Ouais. C'est, voilà, tout est dit. Integra AI donc, interroge aussi les entreprises sur des questions un peu plus d'ordre stratégique. Est-ce que le contexte géopolitique, est-ce que le questionnement, c'est les capacités en France à mieux répondre à tout ça. Il y a une chute de confiance aussi qui a l'air assez forte. C'est vrai qu'on a vu il y a quelques jours un appel là, de Arthur Mensch, genre pour moi, il y allait un peu tout seul. Bon, pour moi, il a lancé cet appel en donnant 22 mesures sur lesquelles il fallait avancer. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que disent ces groupes de travail, Hugues?
Globalement, je dirais que nos entreprises dans Integra AI, elles sont concentrées et à la tâche. Le facteur géopolitique que tu évoquais, les conseils des uns ou des autres, en particulier outre-Atlantique, elles savent très bien s'en passer. Elles avancent, et encore une fois, elles avancent bien. Et je souligne, par ailleurs, ça m'a été dit, et il faut quand même le dire, en ce qui concerne, encore une fois, les business non pas IA natifs, mais les business traditionnels, nos superbes entreprises françaises qui vendent des bouteilles de gaz liquide, qui vendent des sacs, qui vendent des automobiles, qui vendent, ne vont pas plus lentement que leurs homologues américaines.
Ça m'est dit et redit. J'en suis persuadé.
Donc elles avancent, et c'était un des résultats du questionnaire.
C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On est un peu perturbé parce que les fournisseurs de ces solutions-là, eux, sont le pied sur l'accélérateur, et on a l'impression que du coup, et comme ils sont plutôt américains,
ils suivent un agenda différent.
Voilà, mais quand j'ai discuté avec des banquiers américains, tout ça, ils me disent oulala, on y va, intègre tout ça, mais on y va modérément. Enfin, je voyais pas de grande différence par rapport à ce qui se passait en France.
C'est pour ça que je parlais en début d'interview d'une certaine sérénité et d'entreprises absolument formidables qui sont au travail.
D'autant plus que ces entreprises ont généralement une empreinte mondiale. Donc, opère dans tous les environnements. On a vraiment deux courses. On a une course à qui possédera les modèles, qui possédera l'infrastructure, qui est une course de géant de la tech. Et il y a une course de l'usage qui est, pour les entreprises, il faut absolument adopter l'IA pour être certaine de rester dans la course dans leur secteur. Et là-dessus, effectivement, en Europe, en France, on a des entreprises qui sont très, très bien positionnées dans leur secteur. Et cette course de l'utilisation et d'adoption est très différente de la course de je crée des solutions technologiques, et celle-ci est beaucoup plus aujourd'hui aux mains des entreprises américaines ou chinoises, mais la course sur l'adoption, on est complètement dans le jeu.
Et on rappelle, étude, on peut la retrouver sur Integra AI, en tapant Integra AI, on peut retrouver le baromètre en tout cas.
On le publie régulièrement, et en tout cas tous les 6 mois après chaque session de travail.
Et je terminerai là-dessus, en gros, si on fait une synthèse un peu de cette édition-là, je vais essayer lucidité, donc les entreprises savent qu'il faut y aller, et elles y vont, on l'a dit, de façon constructive, plutôt optimiste. Et les gens, il y a toujours une crainte.
Réaliste, mais assez optimiste.
Ouais. Et puis, et ce que tu disais tout à l'heure, Hugues, c'est des enjeux managériaux d'organisation majeure.
Tout à fait, de passage à l'échelle, en fait.
Voilà. Donc c'est ça.
C'est pourquoi il y avait une dernière composante, je crois que c'est Sylvain qui a trouvé le mot, et nerf d'acier.
Et nerf d'acier, oui.
Il ne faut pas que les enjeux sociaux empêchent d'avancer, quitte à se dire qu'on a un calendrier qui est compatible avec des enjeux sociaux des entreprises ou des autres. Il ne faut pas compromettre la vision. Simplement à cause des contraintes sociales.
Eh bien, merci tous les deux d'être venus nous parler de tout ça, donc de ce baromètre. On se reverra donc prochaine réunion de l'Integra AI.
Prochaine réunion en juillet, si tu nous réinvites, on viendra parler avec plaisir.
On parlera de tout ça. Hugues Lemaire, conseiller stratégique, c'est Speed Invest. Sylvain Duranton, global leader du BCGX, donc l'entité du Boston Consulting Group, qui s'occupe plus spécifiquement de l'intelligence artificielle. Tous les deux fondateurs, cofondateurs d'Integra AI, ces groupes de travail qui réunissent déjà plus d'une vingtaine de grands comptes et qui réfléchissent comment mettre l'IA en route. Et on est vraiment pas juste dans le think tank, mais vraiment dans le work tank. Qu'est-ce qu'ils sont déjà en train de faire? Merci à tous les deux. On marque une courte pause. On se retrouve juste après avec nos invités suivants. On va parler développement aussi dans un instant.
BFM Business Partenaire.
Tech & Co Business, la chronique expert.
Voilà, vous en avez l'habitude de ce baromètre avec Optimis, hein, qui justement est une plateforme qui met en relation à la fois des donneurs d'ordre, hein, qui cherchent voilà des profils pour leur projet SI, leur projet IT, et de l'autre, ben ceux qui proposent ces profils IT, que ce soit des freelances ou que ce soit aussi des ESN. Et avec nous justement Alix Mirchan, bonjour.
Bonjour Frédéric.
Merci d'être avec nous, directeur général d'Optimis. Il y avait eu un lancement, on en avait parlé la dernière fois, le club ESN, là ça marche bien, ça y est, c'est parti.
Il démarre en trombe en fait, on a déjà plusieurs centaines de SN inscrites et pas mal de partenaires qui proposent leurs offres.
Voilà, et ce qui est intéressant, parce que ça permet un peu d'avoir, selon les rendez-vous, un peu les tendances, un peu de tout ça, et de
beaucoup
créer
de
cette communauté. Et avec nous, Alexis Normand. Bonjour Alexis.
Enchanté.
Bienvenue, vous êtes cofondateur de Greenly, c'est un de nos champions hein, de l'impact sur la French Tech, plateforme qui accompagne les entreprises dans la mesure et la réduction de leurs émissions CO2. Autant dire qu'en ce moment avec l'IA, on en a un peu besoin hein, de savoir ce que l'on consomme. Alors, on va démarrer, revenir un petit peu sur le baromètre, ce qui en dit. Le marché reste toujours tendu, puis on reviendra dans un instant sur la métier de Greenly et justement toute cette consommation importante d'énergie. Le marché, alors la dernière fois que c'est vu, le marché était déjà tendu,
oui.
Mais là, alors plus 3% de hausse des profils disponibles, mais plus 34% de la hausse des besoins des entreprises. Qu'est-ce qui se passe?
Ouais, c'est assez exceptionnel. D'ailleurs, on atteint un niveau record pas atteint depuis 2021 sur l'indice P2I, monte à 1818. Mmh. Quand on regarde la courbe, c'est un niveau quasiment jamais atteint.
Ouais. Ouais, c'est un indice, voilà, il y a différents calculs qui font ça, mais qui nous permet un peu de se mesurer chaque mois, voir si on est sous tension ou pas.
Alors, on ne voit pas sur la courbe, mais avant le Covid, on était à un niveau légèrement supérieur, donc on est quasiment à un niveau record. Donc, ça veut dire que la demande des entreprises est très, très forte là, sur le premier trimestre de l'année. Mmh. Alors, à nuancer quand même, parce que effectivement, on a lancé le club ESN, on parle beaucoup aux ESN. Elles constatent pas forcément cette tendance.
Oui.
La raison, on commence à arriver à l'expliquer, c'est qu'il y a une espèce de démocratisation aussi des plateformes d'intermédiation. C'est-à-dire que sur les appels d'offres, on voit de plus en plus plateformes d'intermédiation ou groupements avec une grande ESN et une moyenne ESN pour répondre à des appels d'offres de grande taille. Mmh. Donc ça veut quand même dire que le marché est là, il y a une forte demande, mais pas pour tous.
Alors les justement sur les taux journaliers moyens, c'est dans le e-commerce et les marketplaces qu'on a beaucoup de demandes, hein, ce qui est voilà, oui. ça continue bien. Tout ce qui est API, interfaçage, intégration IM, beaucoup moins, enfin ça augmente, mais plus 8%, l'autre c'est plus 24%.
Oui.
Et dans la spécialité, c'est Data, BI et Reporting.
Data, BI et Reporting, donc effectivement la plus forte hausse du TJ, donc du TJM, du tarif de la prestation et pour e-commerce marketplace, donc effectivement 613 euros, plus 24% en un trimestre, c'est vraiment beaucoup. Et dans le top 3, effectivement, on a interfaçage, intégration EIM et Data BI avec une hausse de 8 et 3%. Mm-hmm. Donc, c'est les trois plus fortes hausses des TJ sur le dernier trimestre.
Et alors, rassurez-vous, développeurs, on vous parle de l'IA agentique qui arrive. Hein, développeurs, c'est plus 55%.
Effectivement, ils ont de quoi être rassurés, en tout cas sur ce trimestre, plus 55% de demande de développeurs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va parler d'IA un petit peu, mm-hmm. c'est que l'IA n'empêche pas le besoin de développeurs. Au contraire, pour pouvoir développer des applicatifs IA, on a besoin de plus en plus de développeurs et de chefs de projet, d'ailleurs. 13% de hausse côté chef de projet. Et également, beaucoup de business analysts, parce que ce qu'on veut, c'est aussi avoir les résultats de ce qui est développé par justement toutes ces équipes, et donc beaucoup, beaucoup d'analyses.
Alors Alexis Normand, donc cofondateur de Greenly, vous employez combien de techniciens, enfin de techniciens de l'IT, de développeurs, chefs de projet, etc.
Alors on est environ 220 chez Greenly, et là-dessus on a une équipe tech de 50-60 personnes, si on inclut les stagiaires, et puis on a une trentaine d'ingénieurs climat. Et ce qu'on voit justement avec
l'IA... Ce sont les ingénieurs métiers, on va dire, pour vous.
Voilà, qui accompagnent les clients, qui expliquent les émissions, qui les aident à calculer. Mais eux-mêmes font de plus en plus de dev grâce à l'IA. Il y a une démocratisation du code et ça, c'est intéressant.
Vibe coding, comme on dit. Voilà. Alors justement, expliquez-nous en quelques mots, ça consiste en quoi? Voilà, je suis une entreprise des médias, comme BFM. Je viens voir Greenly. Donc, vous avez ces ingénieurs qui viennent climat. Qu'est-ce qu'ils vont regarder? Ma consommation, évidemment, énergétique, mais pas que...
Voilà, alors on a une plateforme qui simplifie tout le parcours et qui formalise la stratégie de réduction. Et que vous, si vous êtes dans les médias, vous avez assez peu de scope 1 et 2, c'est-à-dire de consommation de fuel en direct ou d'électricité. Parce que vous êtes
comme une entreprise classique, on va dire, voilà.
Comme une société de service, mais vous allez avoir beaucoup de scope 3, donc d'émissions indirectes, c'est-à-dire liées à vos prestataires. Mm-hmm. Et typiquement, si vous êtes une ESN, eh bien, vous allez avoir sans doute beaucoup de cloud, vous allez avoir beaucoup d'outils, et eux-mêmes en fait tournent sur des data centers, et donc les vraies émissions des sociétés de services sont des émissions indirectes liées à la consommation de services digitaux. Et ça, précisément, on le calcule. Bah, typiquement, on va se connecter à vos prestataires de cloud. On va mesurer la consommation électrique associée à vos instances de vCPU, de GPU. On va en tirer un kilowattheure. Et on va regarder où est ce kilowattheure.
Donc ça veut dire que vous êtes vraiment au cœur de ce que l'on consomme, de ce que nous les entreprises, voilà, je vous englobe dedans, mais ce que nous les entreprises consommons vraiment sur ces infrastructures cloud. Vous êtes capable de dire voilà, là aujourd'hui la demande elle est vraiment en train d'augmenter à ce niveau-là.
Absolument, notre plateforme va aller chercher la consommation à la minute près, la consommation électrique de vos usages du numérique, et on regarde où est cette électricité. Si elle est en Irlande, vous êtes entre 3 et 500 grammes de CO2 par kilowattheure. Si vous êtes en France, vous êtes entre 15 et 50, donc il y a un facteur 10. Et donc, une des choses qu'on leur dit, c'est bah, ayez un usage peut-être plus intelligent de l'IA pour décarboner. Mais si vous pouvez pas, parce que il faut maximiser votre code, bah, à ce moment-là, branchez-vous sur des sources d'énergie qui elles-mêmes sont plus décarbonées. C'est ce qu'on a fait chez Greenly. On a déplacé nos data centers de l'Irlande à la France, et on a réduit nos émissions tout en étant en forte croissance. Et donc, il ne faut pas oublier qu'il y a une infrastructure énergétique sous-jacente sur ces services digitaux.
Et j'imagine, on parle beaucoup d'IA agentique, on en parlait avec nos deux invités précédents. Là, en plus, quand ça va commencer à passer à l'échelle, c'est là où il y a une vraie inquiétude à avoir si on regarde nos consommations énergétiques, et d'où le recours à vos plateformes pour bien mesurer un peu tout ce que
absolument, parce qu'on peut fondamentalement réduire ces émissions d'IA en se branchant aux bonnes sources d'énergie. Mais juste pour donner un ordre de grandeur, les data centers liés au cloud, liés à l'IA, c'est en train de passer de 2 à 4% des émissions mondiales. Oui. Il y a plus 10 à 20% de croissance annuelle. Donc c'est exponentielle. C'est de l'énergie qui est affectée au data center plutôt qu'à d'autres usages, votre maison, votre voiture électrique, etc. Donc c'est un vrai sujet.
Et c'est un vrai sujet qu'on retrouve aussi, j'imagine, à travers les chiffres que vous avez chez Optimist.
Complètement, parce que dans le top 3, justement, ça confirme effectivement ce que dit Alexis. Dans le top 3 des spécialités les plus demandées, data, business intelligence, DevOps exploitation, infra et cloud.
Voilà.
Donc effectivement, en tout cas sur ce trimestre, ça confirme complètement ce qui est le fait que ce soit effectivement exponentiel dans la demande.
Est-ce que je continue sur mon idée des agents aussi, Alexis Normand là chez Greenly, est-ce qu'on risque d'avoir des fractures énergétiques aussi? Il y a ceux qui vont, on voit, on en est au début de l'utilisation de ces agents. Alors je parle pour le monde aval, pour les entreprises utilisatrices, parce que les grands fournisseurs, ils sont déjà en train de faire tourner tout ça à fond. Mais est-ce que on pourra avoir une différence entre ceux qui utilisent ces
Oui, alors il y a des fracteurs à plusieurs niveaux. En Europe, les grilles électriques sont interconnectées, donc c'est un ajustement par le prix. Mais aux États-Unis, où c'est fragmenté, vous avez déjà des data centers qui sont obligés de réduire leur consommation, parce que sinon, c'est de l'électricité qui ne va pas dans un hôpital ou une école. Donc le sujet, il est réel. Après, si on parle de fracture plutôt entre les personnes, ce qu'on voit, c'est que l'usage de l'IA, des agents IA, elle est 10 fois plus élevée, c'est les bac plus 5 que chez les bac plus 0. Si on parle juste en termes de consommation énergétique, on parle à peu près d'un humain fait 2,4 kilowattheures par jour. Avec toutes vos consommations d'énergie, vous avez 50 esclaves énergétiques, vous êtes à 120 grammes, mais l'IA concentré sur les plus diplômés, on parle de 2 ou 3 esclaves énergétiques, c'est-à-dire la consommation équivalente d'énergie d'un humain en plus pour les super utilisateurs. Donc c'est tout sauf anecdotique. Et en fait, la facture d'électricité, elle est quand même répartie entre tout le monde. Donc vous avez quand même cette idée que certaines personnes sont des super consommateurs pour une facture électrique qui est en quelque sorte payée par tous. Ça pose la question de comment on va réguler tout ça par le prix, par les usages, etc.
Bien, merci à tous les deux d'être venus nous parler de tout ça. Alexis Normand, donc cofondateur de Greenly avec un Y, hein, si vous nous suivez en radio et si voilà, vous avez un peu des questionnements sur la mesure de votre empreinte de vos émissions CO2, eh bien voilà, c'est l'un de nos champions de l'impact dans la French Tech. Et merci Alix Yachin d'être venu nous parler de tous ces chiffres. Directeur général d'Optimis, on marque une courte pause et on va parler cybersécurité avec nos invités suivants. C'est tout de suite.
BFM Business présente Tech & Co Business, le magazine de l'accélération digitale. Frédéric Simotel.
On va parler cybersécurité avec nos invités. Vous avez certainement entendu parler de Claude Mythos, voilà la nouvelle IA de Anthropic, et qui a pas mal parlé cybersécurité. On va vraiment regarder cela dans le détail avec nos invités. Benoît Grunewald, bonjour Benoît.
Bonjour Frédéric.
Merci d'être avec nous, expert en cybersécurité chez IZET, IZET France, bien entendu. Pascal Le Digol, bonjour Pascal.
Bonjour.
Directeur général de France de WatchGuard, et Jérôme Billois, associé cybersécurité chez Wavestone.
Bonjour.
Jérôme, merci d'être là tous les trois. Benoît, tiens, je vais commencer par toi. Donc, on l'a vu arriver. Alors, nous, ce qui a été un peu particulier, parce que d'habitude, quand on a les annonces, alors que ce soit OpenAI, que ce soit Anthropic, que ce soit Google Gemini, on le découvre un peu dans la presse américaine. C'est... Là, ils nous ont dit, attention, on a quelque chose à vous annoncer. Ce sera sous embargo jusqu'à 20h. La conférence de presse, enfin, il y a vraiment, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Et effectivement, 20h, je crois que c'était mardi, enfin, un mardi soir, on annonce ce Claude. Alors le projet s'appelle Glasswing. Et donc sorti de ce Claude Mythos. Et alors c'est toujours paradoxal, hein, nouvelle. C'est une IA tellement puissante que justement on va pas la mettre entre toutes les mains parce que justement si elle est tellement puissante, c'est qu'elle peut descendre en profondeur et détecter des failles. Et là, ça voudrait dire que si on la lâche dans la nature tout de suite, ben les entreprises pour patcher, ça va pas le faire. Donc soyons plus prudents que ça.
Oui, parce que c'est déjà un gros problème d'ailleurs de patcher pour toutes les entreprises. Ça fait partie de la défense en profondeur, c'est-à-dire qu'il faut mettre un certain nombre de couches et patcher ces applications. Ça fait partie de ce qu'il faut faire. Et cette intelligence artificielle lancée à grand renfort de marketing tel que vous le décrivez, hein, ça a été un beau lancement, ce qui fait aussi partie du succès. Eh bien, c'est une intelligence artificielle qui a la capacité d'aller chercher beaucoup de vulnérabilités, d'étudier le code et de pouvoir comme ça retrouver des vulnérabilités dans un code qui malheureusement est déjà en production. Donc ça veut dire que toutes les applications que l'on peut avoir peuvent potentiellement être auditées et donc sur lesquelles cette IA va trouver des vulnérabilités qui permettraient. Le bon côté, c'est de corriger ces vulnérabilités pour les éditeurs.
Le mauvais côté, c'est de les mettre au grand jour.
Exactement.
Parce que justement, les patchs auparavant, enfin moi je me souviens du patch Tuesday chez Microsoft, là c'était tous les mardis, on mettait à jour, et puis donc les entreprises mettaient ou pas d'ailleurs. Mais là, ça veut dire que il faut presque... la grande crainte, c'est ça, c'est que les entreprises n'aient pas le temps. C'est ça,
oui, on parle de patch en temps réel maintenant. Hein. C'est-à-dire que c'est fini, le patch Tuesday, c'est aujourd'hui. La nécessité, c'est de savoir quels sont les éléments qui constituent à la fois nos équipements, mais également ceux auxquels on dépend. Donc, on parle beaucoup de supply chain, notamment des logiciels libres, des logiciels tiers. Et à partir de là, il va falloir monitorer tout cela pour savoir ce que l'on doit patcher, effectivement, quasiment en temps réel.
On s'était envoyé quelques messages là entre nous lorsque Claude est arrivé. Jérôme, tu m'avais dit très rapidement, le gros souci c'est la vitesse de ces patchs, quoi, de ces correctifs.
Hein. Oui, alors on quitte le patch Tuesday qui était le patch mensuel à ce qu'on appelle maintenant le patch streaming, c'est-à-dire qu'on va regarder en temps réel les patchs arrivés, il va falloir les appliquer en temps réel. Ça, c'est un vrai souci parce que les entreprises malheureusement n'ont pas toujours un inventaire complètement à jour des systèmes parce que ça bouge très vite. Et puis aussi parce que ces patchs, il faut quand même les tester. Oui. Parce que si jamais
il y a
un bug dedans et derrière l'application elle marche plus, on peut plus consulter ses comptes sur son appli bancaire ou réserver un billet d'avion parce qu'on a appliqué un correctif, on a un problème. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'il y a une différence de temps, de rythme qui est en train de s'installer très fortement avec des IA qui trouvent des failles et des correctifs à la volée comme ça par centaines. Et puis derrière des équipes de défense qui elles aujourd'hui sont sur des rythmes mensuels au mieux parce qu'il y a aussi des périmètres où c'est très peu sécurisé. Donc, je pense que ça va amener aussi une transformation qu'il faut anticiper dès maintenant, c'est justement l'apport de l'intelligence artificielle pour la défense. C'est-à-dire que oui, on va pouvoir écrire des correctifs beaucoup plus vite, beaucoup mieux, mais il va falloir aussi que, vu qu'on ne pourra pas appliquer tous ces correctifs aussi rapidement, que les systèmes de défense, en amont, finalement, à la périphérie des systèmes, soient capables d'analyser ces menaces en temps réel et de les interrompre aussi en temps réel. Donc il va y avoir une vraie transformation du secteur de la cybersécurité.
C'est une vraie course, parce que d'un côté, donc on a cette IA qui va continuer à s'améliorer, donc aller encore plus vite pour détecter tout ça. Et quand tu dis dans l'entreprise, ça veut dire qu'en amont, enfin, elle doit toujours être en train de faire des tests,
Ah oui, en fait, ce qu'amène l'IA de manière large, hein, c'est la vitesse. Si on regarde les détections de failles de vulnérabilité, reprochons-nous un an et demi en arrière, hein, c'est quand même pas si loin que ça. On est sur Google qui fait une annonce fracassante avec un modèle d'IA qui s'appelle Big Sleep, qui a trouvé deux failles dans des logiciels que tout le monde utilisait, entre autres OpenSSL, qui est la bible du chiffrement pour protéger les données. Et là, branle-bas de combat, l'IA trouve des failles, etc. Ensuite, on passe aux annonces de l'année dernière. Là, on est sur les annonces aussi liées à Claude et à l'arrivée donc Anthropic et l'arrivée d'Opus 4.6 qui a trouvé des centaines de vulnérabilités. Et là, on passe à Mythos qui en trouve des milliers et dans des systèmes qui avaient déjà été audités manuellement par des experts depuis des années. Et donc, cette accélération, elle est exponentielle et elle amène finalement à avoir besoin d'une réaction exponentielle aussi dans les entreprises.
C'est ça cette difficulté, Pascal, cette réaction.
En termes de production, ça va être un problème. On patche pas un serveur comme ça à la volée. En tout cas, pas aujourd'hui.
Oui, c'est pas. Évidemment, on pense toujours au pansement. Voilà, c'est pas juste. On applique un pansement et on attend que ça
s'écrise. Déjà, faut un reboot alors que c'est un serveur de production. Donc déjà, ça pose un problème. Hein. C'est ces fenêtres, des fenêtres d'upgrade. Après, ça, faut aussi voir le global. C'est-à-dire que certes, ça apporte. Ça nécessite un patching beaucoup plus rapide et quasiment à la volée.
Le streaming, ouais,
parce que sinon on laisse une fenêtre de tir en fait aux pirates en face. Donc on va devoir le faire à la volée. Maintenant, on peut aussi se dire que l'IA va pas apporter que sur les zero day, mais aussi sur la stabilité du code et peut-être justement ces tests vont être de moins en moins nécessaires parce qu'il y aura pas de crash parce que le code aura lui aussi été testé vis-à-vis de ça.
Parce que s'il faut prendre un peu de recul là-dessus, c'est aux éditeurs aussi du coup dans faites partie tous les deux à être un peu plus bon, ce dont on parle depuis pas mal d'années, le secure by design, chose que alors, chez vous je pense que oui c'est dans l'ADN des entreprises, mais enfin, c'est dans l'ADN de vos entreprises, mais bon c'est pas le cas chez tout le dans le domaine des éditeurs de la cyber, je ne sais pas, mais en tout cas dans le domaine des entreprises qui développent leurs propres applis, c'est pas toujours le cas.
Non, et puis il suffit de nous prendre comme un exemple, hein. Même si on est sensibilisé, tous les éditeurs de la cyber ont leur vulnérabilité, on a tous on publie tous les CVE quand on en a, certains en ont plus que d'autres, etc. Mais on en a tous. Donc si nous, qui sommes sensibilisés, en avons beaucoup, effectivement, de l'autre côté, il y en a beaucoup plus. Donc de ce point de vue-là, Mythos, c'est une bonne nouvelle. Ça va dépendre comment il est mis à disposition, de qui, comment, à quel coût.
Alors là justement, ils ont signé avec, ils ont annoncé tout de suite pas mal de signatures avec Microsoft, Palo Alto, CrowdStrike, enfin tous les acteurs.
Oui, il y a des API few effectivement qui ont accès à des versions du coup sans restriction parce que aujourd'hui, mis à part ces quelques API few, le code n'est pas disponible. En ce qui concerne l'utilisation pour la défense, moi ça me fait immédiatement penser au CRA, le nouveau règlement qui arrive, Cyber Resilience Act, qui un peu comme nous, effectivement, éditeurs de sécurité, avons une notion du code Secure by Design, by Default, une notion aussi de divulgation. C'est-à-dire que quand on trouve des vulnérabilités, on fait en sorte que l'éditeur, celui qui est concerné, ait le temps, on l'avertit, il ait le temps de corriger et ensuite de déployer, ou en tout cas de donner la possibilité à ses clients de déployer les correctifs. Et en fait, avec cette IA, si c'est pris en compte lors par le CRA, par les développeurs, eh bien, ils vont pouvoir ajouter des éléments qui vont renforcer le security by design et par défaut, de manière beaucoup plus forte que ce qui peut être fait aujourd'hui avec juste l'œil humain.
C'est-à-dire, ce que nous dit Benoît, c'est que les éditeurs, enfin les acteurs de la cyber, ils sont pas en retard par rapport à des pirates qui pourraient exploiter ces...
Ou pas en retard, alors... Par rapport à des pirates, aujourd'hui, on voit il y a toujours une course. Hein, si on regarde, comme on le disait à l'instant, il y a beaucoup de failles dans des produits de sécurité aussi, comme il y en a beaucoup dans des produits grand public, des produits d'entreprise, etc. Donc je pense que c'est une course en continu. En fait, la question, c'est qui a accès aux derniers modèles d'intelligence artificielle et comment ils vont être utilisés. Parce qu'à partir du moment où ces modèles vont être ouverts largement et pourront être accessible et un peu détournée par des cybercriminels, là oui, il y a un vrai risque. La question intermédiaire aujourd'hui, c'est les autres États, les services de renseignement, etc. Ils seraient aussi extrêmement intéressés parce que ça leur permet de créer des clés numériques pour entrer dans tous les systèmes sans être vus. Donc on voit bien l'intérêt pour beaucoup de pays. D'ailleurs, Anthropic, à la fin de son communiqué, a une petite phrase très sibylline qui dit « Nous restons ouverts avec tout échange avec le gouvernement américain ». On sait qu'ils ont eu beaucoup de difficultés avec le Pentagone. Là, ils ont quand même...
Quitte à ce qu'il soit, même Donald Trump avait mentionné à un moment de les mettre sur une potentielle liste noire.
Ils ont été mis sur la liste noire, ils ont fait appel. J'ai cru voir que justement l'appel avait été rejeté. Mm-hmm. Aujourd'hui, l'administration Trump a dit on ne veut voir aucun logiciel anthropique au ministère de la Défense, mais aussi dans toutes les administrations américaines. Ouais. Et là, ils se coupent finalement quelque part d'une capacité d'innovation qui est extrêmement utile pour eux. Mm-hmm. Donc voilà, il y a
un business récurrent, enfin voilà, des revenus récurrents, et puis on sait bien que c'est tout ça qui a donné lieu aussi à ce qu'on voit avec la NASA, ce qu'on voit avec la Silicon Valley aujourd'hui.
Et il y a un point intéressant sur les Happy Few que citait Benoît. Si on prend la liste de tous ceux qui ont eu accès en avant-première, parce que ça leur donne aussi un avantage concurrentiel quelque part, il y a évidemment les grands opérateurs du numérique, et là c'est sûr qu'il faut sécuriser Microsoft, Google, Amazon, parce que sinon on a un risque pour la continuité du fonctionnement de beaucoup de services qu'on utilise. Mais il y a une banque aussi. Il y a JP Morgan Chase dans la liste. Et on voit bien qu'il y a beaucoup d'inquiétudes sur les sphères des grandes entreprises et en particulier de la finance. Il y a eu, aux États-Unis, une réunion d'urgence entre le ministère de l'économie là-bas.
C'est vrai, c'était vendredi, je crois.
Voilà, le patron de la Fed, Jérôme Powell, avec les grandes institutions financières. Le Royaume-Uni a fait la même chose. Il y a la FCA et la Banque d'Angleterre qui se sont réunis, parce que on est là face quand même à un vrai risque qui pourrait amener, si des failles sont trouvées dans les logiciels bancaires aussi, à potentielle fuite de monnaie, indisponibilité des systèmes, etc., qui peuvent être graves. Donc voilà, on voit qu'on sort de la sphère juste technologique et qu'on va vraiment sur une sphère beaucoup plus large.
Donc ça veut dire à la fois des codeurs qui doivent mieux développer, mais qu'est-ce que ça signifie aussi, parce que c'est vrai que quand on parle maintenant de cloud, de toutes ces versions-là, on se demande s'ils ne sont pas en train de quelque part ubériser un peu les solutions traditionnelles de sécurité. Est-ce que sur les solutions de détection d'intrusion, ce genre de choses,
non, on ne crois pas que ça soit l'objectif principal.
Je profite de vous avoir vu là en plateau, parce que justement on se dit si ce Claude, je suis vraiment très basique, si ce Claude Mythos permet de détecter les vulnérabilités, à quoi ça sert que je m'engage avec des éditeurs qui font la même chose, qui font la détection d'intrusion, pour comprendre un peu la nuance entre les deux.
Parce que quand on détecte des failles et des vulnérabilités sur un système ou sur une application, ce n'est qu'une partie de ce que l'on va appeler la kill chain, que l'on pourrait, Mitre et Attaque, nous divise ça en 13 étapes. Et donc, dans les 13 étapes qui permettent d'arriver à la fin de l'opération, par exemple un rançongiciel, cette opération qui est l'exploitation de vulnérabilité est un élément parmi d'autres. D'accord. Et ça n'enlève pas le fait que il y a un moment, il faut savoir quelles sont les sociétés et ou systèmes d'information qui contiennent des logiciels qui contiennent des failles. Donc il faut faire de l'analyse. Il faut également savoir si je vais rentrer avec l'aide d'un login et d'un mot de passe qui va me permettre peut-être d'atteindre une application qui n'est pas disponible sur Internet, mais que je sais qui est utilisée par l'entreprise. Donc bon, dans ces 13 étapes, à mon avis, il y a encore du boulot pour un grand nombre de protections, de couches de protection que l'on appelle la défense en profondeur. C'est-à-dire que l'objectif, c'est bien de minimiser la progression des attaquants, de les détecter le plus vite possible lorsqu'ils tentent de rentrer dans le système d'information. Et c'est pour ça qu'avant, on disait, j'avais un antivirus. Ça suffisait. Ouais. C'est pas vrai, ça suffisait pas. Mais on se disait, j'ai un antivirus, ça suffit. Aujourd'hui, on va mettre un EDR, on va mettre XDR, on va mettre des firewalls, on va mettre des VPN, on va mettre de l'authentification multifacteur. Et en fait, tout ça vient s'empiler. Et l'exploitation de failles est un élément parmi d'autres qui permet.
C'est décentrer les failles, Pascal.
Oui, ça veut dire qu'on va devoir mettre encore beaucoup plus d'IA dans nos défenses pour contrer les IA d'attaque. Je ne sais pas si vous avez vu, mais dans le dossier de Mythos, justement, il était capable lui-même d'écrire des exploits qui lui ont permis de sortir de sa sandbox. Donc ça va quand même assez loin. Après, je rejoins Benoît, c'est un pan de la cyber. les vulnérabilités. Alors pour l'instant, il s'est attaqué à ce pan-là. Et encore, Mythos, ça n'a pas été fait pour de la cyber. C'est-à-dire aujourd'hui, ces résultats-là sont faits sans optimisation pour la cyber.
Donc, mais c'est vrai que c'est important de le rappeler.
C'est violent, en fait. Hein. Oui. Quand ils vont optimiser pour la cyber, ça va piquer un peu. Mais effectivement, c'est qu'un pan. Si on parle d'ingénierie sociale, où on en parle régulièrement entre nous.
Fake et
tout. Voilà. Alors pareil, quand ils vont s'attaquer à l'ingénierie sociale, ça va être autre chose. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, c'est la vulnérabilité. Donc c'est important. C'est important de voir ce que les attaquants vont en faire aussi, parce que certes il y a Mythos, mais je crois qu'ils indiquaient une avance d'à peu près 6 mois. C'est presque optimiste, je trouve. Très probablement, on va avoir des modèles utilisés par des pirates très bientôt. Donc
oui, et puis c'est toujours le côté paradoxal de ce type d'annonce, quoi. C'est de dire nous, on est pour la diffuser au plus grand nombre. Par contre, c'est un peu. Moi, je trouvais que c'était assez opportun de le sortir en ce moment, parce qu'on sait qu'il y a eu toutes les histoires entre OpenAI, le Pentagone, enfin entre Anthropic et le Pentagone. Après, OpenAI qui dit nous, on veut bien reprendre le contrat. Enfin bon, il y a un peu d'image aussi là-dessous.
Oui, ça toujours. Et évidemment, il y a une espèce de course marketing par les monstres de l'IA, en particulier Anthropic et OpenAI, qui ont déjà utilisé cette histoire de dire attention, ce qu'on produit est trop dangereux, il faut déjà qu'on le vérifie bien avant de le révéler. C'était sur les attaques terroristes, bactériologiques, etc. Parce qu'effectivement, les modèles, on peut leur demander n'importe quoi, et des fois, ils ont les bonnes réponses sur des choses où on n'aimerait pas qu'ils aient les bonnes réponses. Donc, il y a ce qu'on appelle des guardrails, des garde-fous qui sont ajoutés dans les modèles. Et d'ailleurs, sur la mise à disposition de Mythos au plus grand nombre, Anthropic a bien dit qu'ils allaient le faire. Et que justement, ils étaient en train de développer des nouveaux garde-fous autour du modèle pour éviter que ces systèmes puissent être détournés. Alors, il faudra voir la solidité des garde-fous. Aujourd'hui, nous, quand on teste avec nos équipes sur le terrain les garde-fous, on arrive toujours, à un moment ou à un autre, à les contourner, à tourner autour. Donc voilà, il y a un vrai enjeu, bon, à la fois de marketing, mais il y a quand même un track record, il y a quand même des preuves de ce qu'a déjà fourni Anthropic et de la qualité de leur modèle. Et quand on voit la réaction même des institutions financières, etc., il y a quand même du réel derrière et il faut quand même s'en occuper.
Oui, Pascal.
Moi, j'appelle ça ouvrir une boîte de Pandore, parce que dès lors qu'on sait que c'est possible, et c'est possible, parce que voilà, ça vient d'être prouvé, ça va être une course pour tous les autres pour essayer de rattraper ce modèle. Donc, à partir de quand la piraterie va y arriver, si elle n'y arrive pas déjà, parce qu'en fait, on part tous du principe qu'ils sont en avance, mais...
On ne sait rien.
Vu les puissances nécessaires, peut-être que, mais ça ne va pas rester longtemps. Et là, il y a une vraie question qui se pose. Si ça ne reste pas longtemps, aujourd'hui, notre marché, il n'est pas prêt. Il est clairement pas prêt à se défendre contre tout ça. Il y a plein d'anciens codes, entre guillemets, qui est du code actif, mais écrit avec les anciennes façons, sans, j'allais dire bêtement, sans Claude pour aider à enlever les bugs et les vulnérabilités. Ce code-là, il est en production partout. En combien de temps on va réussir à le patcher? À quel coût? Il va y avoir sans doute un mandat de vitesse, des gens qui vont avoir les moyens de le faire, d'autres qui n'ont pas les moyens de le faire.
Il faut tester en plus. C'est pas juste le fait d'installer.
Ouais, tester tout ça. Donc là, on ouvre une boîte où effectivement, pendant un certain temps, on risque d'avoir un nombre d'attaques qui risque d'augmenter. C'est-à-dire que là, ils ont dit OK, stop, on ne sort pas tout de suite. Le temps que ça se déverrouille côté attaquant, et là, il va falloir être hyper vigilant et avoir bien développé les process de défense.
Est-ce que ça ne nous projette pas déjà un peu, Benoît Grimmeval, dans cette partie, on parle beaucoup du quantique qui va arriver, et justement le chiffrement post-quantique. Le but, c'est de dire, aujourd'hui, on a des clés, seul le quantique pourrait les casser. Et puis, ce qu'il y a, c'est qu'on se rend compte que le quantique, il n'est pas si loin que ça. On part pas à l'horizon 2040 ou 2050.
Oui, le quantique...
Pas pour cette partie-là, en tout cas.
Alors, le quantique n'est finalement pas si loin que ça, mais qui aurait pu prédire que l'IA viendrait voler la vedette au quantique en termes de cybersécurité, et qu'on est aujourd'hui là face à une problématique qui est pas plus grande, mais en tout cas plus imminente et plus globale que celle du quantique. Et on risque de se retrouver dans les organisations, quelles qu'elles soient, Jérôme en parlait, bancaires, étatiques, la base industrielle technologique et de défense qui produit de l'armement en France notamment, va se... potentiellement se retrouver face à un certain nombre de risques et de problématiques qui n'étaient pour l'instant pas encore vraiment envisagées.
Sans compter les données qui auraient pu être récupérées, après on verra ce qu'on se remet, mais qui pourraient être lues plusieurs années plus tard, Jérôme.
Oui, les échéances Historiquement, on parlait de 2035, puis là, c'est rapidement revenu à 2030, pour changer l'ensemble des moteurs de chiffrement qui sont cachés dans nos téléphones, dans nos ordinateurs, dans les applications d'entreprise. La Google a fait des annonces récentes avec une avancée sur des algorithmes pour casser le chiffrement. On est plutôt à 2029. On est en 2026. 2029, c'est dans 3 ans.
Ça
arrive très vite. Surtout que ce qu'il faut avoir en tête, là, c'est que c'est pareil, ça va consister à aller sur chaque équipement numérique, enlever le moteur de chiffrement, le logiciel de chiffrement, le changer, changer les clés. Et c'est très, très loin d'être anodin pour faire ça à l'échelle d'une grande entreprise. D'autant plus que les algorithmes nouveaux de chiffrement, ils sont nouveaux. Et donc, qui dit ils sont nouveaux, il y a certainement aussi des failles dedans. Et donc, on va pas, c'est pas, il faut bien avoir en tête, ça ne va pas être un changement une seule fois. Il faut être ce qu'on appelle dans la crypto-agilité, parce qu'en fait, il faut se préparer en fait, à changer ces algorithmes de chiffrement de plus en plus fréquemment et d'avoir des patchs de chiffrement comme on a des patchs de systèmes d'information.
Crypto-agilité, patch streaming, voilà, tout est fait dans le... par rapport à cette innovation galopante.
Sachant que là-dessus, nous, on en sait quelque chose, qu'on fait un peu de hardware. Ben, en fait, tous les hardware ne vont pas supporter les algorithmes de chiffrement. Donc, il va falloir changer les hardware, changer les firewalls, changer tout ce qu'il y a de la crypto. Tous les processeurs ne vont pas réussir à supporter ça. Donc là, on parle d'un changement d'infrastructure colossale.
Au risque de se retrouver non couvert, entre guillemets, par rapport à ces failles pendant quelques temps, quoi, le temps que tout ça.
Oui, probablement.
Sachant que l'ordinateur quantique va arriver, au début, il va arriver quand même dans quelques endroits bien déterminés. Il va rapidement être utilisable en mode cloud parce que c'est le modèle économique qui sera adopté. Et donc, voilà, toute la question aujourd'hui, ça va être quelle est la courbe finalement de mise à disposition par rapport à la capacité à absorber des données et ensuite casser le chiffrement. Donc voilà, c'est là où réside encore un peu la question. Mais clairement, 2030, c'est l'horizon à laquelle il faut viser.
Bien, merci messieurs d'être venus parler de tout ça. Voilà, je trouvais que c'était intéressant d'ouvrir un peu ce chapitre Mythos et rester dessus pour bien comprendre ce qui est en train de se passer. Benoît Grunemwald, expert en cybersécurité chez IZ France, Pascal Lodigal, directeur général France de WatchGuard, et Jérôme Bidois, associé cybersécurité chez Wavestone. Merci à tous les trois.
Merci.
Merci de nous avoir suivis pendant cette heure Tech & Co Business sur BFM Business. On se retrouve évidemment les replays, et puis rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, excellente semaine sur BFM Business.
Tech & Co Business sur BFM Business.